dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Au mois de novembre, on était allé visiter une église. Une église à qui Jésus ne fait aucun reproche. On avait déjà visité Smyrne dans le passé. Sur les sept, là, il y en a seulement deux à qui Jésus ne fait aucun reproche. Et si je demandais aux chrétiens moyens, « OK, comment est-ce que tu vois une église à qui Jésus ne fait aucun reproche? » Puis comment est-ce que tu vois ça? Peut-être que ce ne serait pas la même chose que Jésus, la façon dont Jésus, lui, voit ça. Des fois, on a tendance à regarder une église de qualité par la grosseur du building, la grosseur, le nombre de personnes. Il n'y a rien de mauvais en soi, ou la grosseur du ben en avant, ou la quantité de programmes, l'implication dans la communauté et tout ça. Il n'y a rien de mauvais dans tout cela. Mais ce n'est souvent pas ces choses-là qui frappent Jésus-Christ. Alors, l'église qu'on a regardée au mois de novembre, c'est Philadelphie, c'est la deuxième église à qui Jésus ne fait aucun reproche. Alors, tournez vos Bibles dans l'Apocalypse au chapitre 3. Et au verset 7, on avait fait les versets 7 et 8. Alors aujourd'hui, avec le temps qui me reste, j'espère faire 9 et 10. On va s'essayer. Alors, au verset 7, « Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable. » Juste ces expressions-là, là, ça agace l'oreille du citoyen moyen en Amérique. Parce que le citoyen moyen en Amérique ne croit pas vraiment qu'il y a une vérité. Il croit qu'il y en a plusieurs, et d'ailleurs, il croit que lui-même est peut-être la vérité aussi. Mais le texte nous dit clairement qu'il y a le véritable, et c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, et celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Alors, venez avec moi dans l'église de Philadelphie, au verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. On avait étudié ces versets-là en novembre. Donc, les premières choses qui nous frappent quand on rentre dans cette église-là, Jésus dit, voici parce que tu as peu de puissance. Ce n'est pas une église qui frappe par l'influence, par le nombre, par la grandeur. Ça ne flash pas, cette église-là. C'est une église qui a peu de puissance. Et je vous dis une chose, c'est qu'on aime pas, on aime se sentir fort, on aime se sentir en contrôle et on aime se sentir vraiment au-dessus de notre situation. Accueillez avec favorablement les saisons de vos vies là, où vous vous sentez faible et fragile. Pourquoi? Parce que ça vous pousse à aller à Dieu en prière. Ça vous pousse à lire les Écritures et à chercher des promesses. Votre force ne vient pas de vous, mais elle vient du Seigneur. Alors, parce que tu as peu de puissance, c'est correct ça d'avoir peu de puissance, parce que quand j'ai peu de puissance, je me jette à ses pieds. Et c'est là que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort, que Paul disait dans Corinthiens. Et la deuxième chose qui nous frappe quand on visite cette église-là, c'est parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Une église à qui Jésus ne fait pas de reproche, ce n'est pas une église qui frappe, qui flash, puis qui est forte, puis qui est gros à tous les niveaux, là. C'est correct, ça aussi. Mais c'est une église, si on avait été visiter Philadelphie, là, on aurait dit, mon ami, ce monde-là, là, la parole de Dieu, c'est l'autorité dans leur vie. On le voit dans leur vie. Pas juste dans leurs yeux ou dans leur visage, mais on aurait vu à Philadelphie des gens, là, que la parole de Dieu, c'est ça qui est le guide de leur vie. Donc, si la parole de Dieu est leur guide de leur vie, les couples, ça se voit. Le mari est d'une certaine façon, la femme est d'une certaine façon. Puis on verrait des parents impliqués dans l'éducation des enfants parce que la parole de Dieu nous dit ces choses-là. On verrait ces choses-là. Ça dit ici encore, je le répète, parce que tu as gardé ma parole. C'est un des traits qui caractérise un homme ou une femme de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'autorité finale. Il n'est pas jeté à gauche parce que le courant de la société, les médias, l'éducation poussent cette idée-là, puis là, ils suivent cette idée-là. Ils ne sont pas jetés à gauche et à droite dans les courants des idées de leur société. Alors, les chrétiens de Philadelphie, là, c'était des gens qui étaient ancrés dans la parole de Dieu. Et c'est ce que le texte nous dit ici. « Tu n'as pas renié mon nom. » La troisième caractéristique ici à Philadelphie, c'est des gens dont Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui le Seigneur de leur vie. Ils ne flashent peut-être pas. C'est peut-être des gens très humbles, sûrement des gens très humbles, mais que tu vois chez eux une dépendance face à Christ, parce qu'ils n'ont pas renié son nom. Trois caractéristiques. Alors, on va entrer dans le verset 9 maintenant. Alors, si on était avec Jésus-Christ à Philadelphie, on continue, Jésus, ce qu'il leur dirait, « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Vous savez, cette expression-là, « synagogue de Satan », elle se retrouve dans une autre des sept églises, et c'est l'église de Smyrne, l'autre église à qui Jésus ne fait aucun reproche. Alors, allez vers la gauche, là, au chapitre 2, et au verset 9. Smyrne, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, encore, et qu'ils ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ça veut simplement dire que les Juifs dans la région de Philadelphie et aussi dans la ville de Smyrne, ils causaient du trouble aux chrétiens, la même façon qu'ils ont causé du trouble à Jésus-Christ, du temps où Jésus-Christ a vécu son ministère. La persécution souvent venait des Juifs dans ces régions-là, en plus de Rome, mais aussi ici dans le texte, c'est clair que les Juifs causaient du trouble aux gens de Philadelphie. Mais ça, c'est pour un temps, le texte nous dit. Et c'est pour un temps, tous ceux qui vous causent du trouble ou qui vous persécutent ou qui vous calomnient, c'est pour un temps. Parce qu'un jour, l'Écriture dit clairement, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ, pas Mohammed, pas Allah, pas Bouddha, pas Dalai Lama, mais Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Il y en a un que toute langue et tout genou, tout homme va confesser. Et c'est ce que j'ai dit au dernier témoin de Jéhovah qui est venu chez moi après quelques discussions. J'ai dit, écoute bien, soit que tu plies genou devant Jésus-Christ et que tu confesses que Christ est Seigneur aujourd'hui, ou il sera éternellement trop tard. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui simplement a plié le genou et a confessé devant Dieu que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Au verset 10, on continue. On a un autre « parce que ». Alors, verset 8, vous avez le « parce que », parce que tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Un autre « parce que », au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Alors, encore une fois, je vous amène à Philadelphie, puis on aura vu chez les gens de Philadelphie des hommes, des femmes, qui persévèrent dans les difficultés. Et pourquoi ils persévèrent, ces gens-là? Le secret de leur persévérance est dans les versets qui précèdent. Peu de puissance. Comme c'était des gens qui étaient peu puissants, des gens qui étaient faibles et fragiles et qui le réalisaient, eh bien, ils se jetaient aux pieds du Seigneur pour trouver en lui leur force, leur courage. L'autre raison pourquoi ces gens-là ont été capables de persévérer, c'est parce qu'ils avaient gardé la parole. La parole avait l'autorité. Et dans la parole de Dieu, il y a tellement plein de textes qui nous encouragent à persévérer, à marcher de l'avant et à croire qu'un jour Dieu va nous délivrer du présent et de ses difficultés. Et une autre raison pourquoi ils ont gardé la parole de persévérance en moi, dans le verset 10 qui nous préoccupe ici, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas renié le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est et a toujours été pour eux le Seigneur de leur vie. C'est lui qui est Seigneur. C'est pas moi qui est Seigneur. C'est pas vous qui êtes Seigneur de votre vie. C'est Christ. Quelqu'un a dit à quelque part, le Seigneur doit être le Seigneur de tout. Il est le Seigneur de mon couple, de ma famille, où est-ce que je travaille, dans l'Église ici, il est Seigneur. Ces gens-là, au verset 10, dit « Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai. » Il leur donne une promesse. « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » C'est épouvantable, ça. Il y a une heure, il y a un moment donné, où il va y avoir ce qu'on appelle une tribulation qui va éprouver les gens du monde entier. Il y a un jugement qui va venir. Je ne sais pas si j'espère que vous y croyez. Il y a un jugement qui va venir un jour sur la terre en entier. Et il est dit ici que je te garderai aussi à l'heure. Mais l'expression aussi, je te garderai aussi à l'heure, c'est un petit mot, c'est « un cas ». Qui veut dire « hors de » ou « loin de ». Et on croit ici que ça ferait référence à l'enlèvement de l'Église. À un moment donné, Jésus-Christ va enlever son Église. Alors, on peut lire dans Corinthiens, 1 Corinthiens 15, verset 51, Alors, 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Alors, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Et nous, nous serons changés. Il y a un autre texte qui nous parle de ça dans Thessaloniciens. Alors, tournez vos Bibles dans Thessaloniciens. Au chapitre 1, Thessaloniciens 4. Verset 13. Alors, 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'enlèvement va avoir lieu un jour. Je ne sais pas quand, mais ça va avoir lieu. Et selon Apocalypse 3 et d'autres textes, ça dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, hors de cette tentation-là qui va venir sur le monde pour éprouver le monde entier. Alors, les jugements de Dieu vont venir. Si vous regardez l'Apocalypse, c'est chapitres 6 à 19, vous avez toute une série de jugements sur les habitants du monde. Et aussi dans Ésaïe 13, entre autres. Alors, je vais lire ce texte-là, Ésaïe 13. Les versets 6, à partir des versets 6 à 13, alors Ésaïe 13, verset 6, « Gémissez, car le jour du Seigneur est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. » Moi, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai vu ma femme, là, puis ça n'a pas l'air évident. « Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici, le jour du Seigneur arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurera dès son lever, et la lune ne fera plus lire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que leur d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. » Alors, c'est des textes qui font réfléchir beaucoup. Et on retourne dans l'Apocalypse, au chapitre 3, avec le verset 10. Il dit, « Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai hors de, ou aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » La raison pourquoi l'Église ne passera pas par ce qu'on appelle la grande tribulation, c'est très simple. C'est qu'un chrétien, c'est quelqu'un que quand il a regardé à Jésus-Christ, puis il a dit, la colère de Dieu a frappé le Fils à cause de mes péchés. Je crois. Alors pourquoi est-ce que moi je devrais passer par la colère de Dieu? Parce que je sais que je le méritais, cette colère-là. Alors l'Église va être sorti avant que cette colère-là frappe le monde entier. Il y a quelques exemples dans l'Ancien Testament. Prenez Noé. Noé, là, dans les Genèse 6 à 8, le jugement qui est venu sur toute la terre par les moyens du déluge, c'est qu'une fois que Noé est rentré dans l'arche, le jugement a éclaté. Noé n'est pas passé à travers de ça. Il était dans l'arche. Et un autre cas, Lot, dans Genèse 18 à 19, Lot, qui était loin d'être un croyant idéal, mais Dieu a dit à Abraham, je peux pas, je vais rien faire jusqu'à ce que Lot soit encore sorti de Sodome et Gomorre. Et une fois que Lot est sorti de Sodome et Gomorre, le feu du ciel est descendu et a détruit ces villes-là. Il y a encore des restants de tout ça dans cette région-là. Alors, on a au moins deux exemples dans la Bible. Il y en a d'autres. J'en ai cité deux. Noé et Lot, qui ont été épargnés complètement, qui ont sorti à travers de tout ça, qui n'ont pas goûté au jugement de Dieu, mais qui ont été gardés à l'heure de la tentation ou du jugement de Dieu. Dans le cas de Noé, sur la terre entière. Dans le cas de Lot, sur une région en entier. Alors, c'est une promesse incroyable, ça, pour les chrétiens, les croyants de Philadelphie, mais c'est aussi une promesse pour nous, pour tous les chrétiens de tous les âges. Je te garderai hors de la tentation qui va venir sur le monde entier. Un chrétien est sauvé et va être épargné au jour où le jugement de Dieu va tomber. Il faut faire une distinction entre les épreuves, parce que vous allez peut-être me dire, « Oui, mais Sylvain, les chrétiens ont toujours été éprouvés, et pourtant Dieu a permis qu'ils soient massacrés, et tués, brûlés, mangés par les lions et tout ça. » Ça, c'est une chose, ça. C'est vrai que l'Église est souvent éprouvée. Elle est éprouvée présentement en Chine, incroyablement éprouvée. Elle est éprouvée en Inde. Elle est éprouvée dans les pays musulmans. Et ici, en Amérique, elle n'est pas éprouvée. Elle le sera peut-être éprouvée. Mais être éprouvée, c'est une chose. Mais la colère de Dieu qui va frapper le monde entier, c'est une autre chose. Il y a une grosse distinction à faire entre les deux. On continue. Et 20. Je vais faire au moins deux versets. Le verset 11, je vais terminer avec lui. Je viens bientôt. Je vais terminer avec ça. Je viens bientôt. Et là, je sais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un ici. Quand je dis « je viens bientôt », là, il y en a ici qui disent « ouais, mais Sylvain, ça fait 2000 ans. C'est pas trop bientôt, ça. » Mais le terme « je viens bientôt » veut simplement dire « je viens rapidement, soudainement ». Ce n'est pas en termes de temps, c'est en termes de rapidité. C'est-à-dire, quand le Seigneur va revenir, ça va se faire rapidement. « Je viens bientôt ». Vous savez que cette vérité-là du retour de Jésus-Christ a été négligée pendant longtemps, longtemps, longtemps. Mais c'est seulement depuis environ 150 ans que l'enseignement concernant le retour de Jésus-Christ a refait surface. Je ne sais pas pour quelle raison ça a été négligé, cet enseignement-là, mais aujourd'hui, elle refait surface. Pourtant, quand on enseigne la parole de Dieu, saviez-vous qu'un verset sur 25 dans le Nouveau Testament parle du retour de Christ? Un verset sur 25 parle du retour de Christ. Y croyez-vous? Gardez ça pour vous. Mais la question, c'est, y croyez-vous? On vient de lire ici, je viens bientôt, je viens rapidement, je viens soudainement. Si vous lisez un peu votre Bible, là, vous voyez ça à tous les 25 versets. Si vous y croyez, qu'est-ce que ça change dans votre vie? Un chrétien qui croit que Jésus-Christ revient, ça change complètement tout. Parce que si je crois que Jésus-Christ revient, il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui nous disent qu'un serviteur qui attend son maître va vouloir être au service. Ça stimule le goût de servir. Si Jésus-Christ revient, je veux être à son service. La deuxième chose que ça stimule chez un chrétien, s'il croit vraiment que Jésus-Christ revient, ça stimule chez lui le goût de la sainteté. Tu ne regardes pas n'importe quoi. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne penses pas n'importe quoi si tu crois que Jésus-Christ revient. Vous comprenez? Cette vérité-là, on peut le dire du bout des lèvres, mais si j'y crois, je deviens un homme, une femme de service, parce que mon maître revient. Si j'y crois vraiment, toute la question du péché, la pratique du péché, même dans vos têtes, c'est important. Les places où vous allez, ça fait une différence. Les choses que vous regardez, ça fait une différence. Vos conversations sont différentes. Comme, vous ne passez pas votre temps à blasphémer ou à murmurer ou à mentir ou quoi que ce soit. Non, tu dis, Seigneur, reviens. Seigneur, je veux être prêt à ton retour. J'y crois. Et l'autre chose que ça produit, il y a trois choses que ça produit le retour de Christ pour ceux qui y croient. Le service, la sainteté et aussi l'espérance. Alors, si vous souffrez, ben vous vous dites, ça ne sera pas toujours comme ça, parce que le Seigneur revient. Comprenez-vous? Je n'ai pas lu toutes les références, je peux vous les donner. Pour le service, c'est Matthieu 24, 45 à 51. Pour la sainteté, c'est 1 Jean 3, versets 2 et 3. Ces textes-là que je vous lis, c'est en rapport au retour de Jésus-Christ. Ça produit ça ça devrait produire ça chez les gens qui y croient. Pour l'espérance, c'est Romains 8, 18, 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Ce sont tous des textes qui nous disent clairement que parce qu'on souffre pour un temps, c'est rien par rapport à la gloire à venir et ces choses-là. En résumé, croire que Jésus-Christ revient bientôt, comme on le lit au verset 11, change tout dans nos vies. Tout, tout, tout. Ça change la manière que je suis avec ma femme. J'ai un conflit, je le règle. Ça change comment je suis avec mes enfants. Ça change comment je suis dans l'église locale. Ça change comment je suis aussi dans mes loisirs. Ce que j'écoute, ce que je regarde, de quoi j'entretiens. Ça change même la manière que je pense. Certaines pensées, tu dis, non Seigneur, je ne veux pas ça. Je rejette ça. Je n'entretiens pas ça. Alors, ma prière, c'est que l'Église évangélique baptiste de l'Est de l'Ontario devienne la Philadelphie du 21e siècle. C'est vraiment ma prière, c'est celle de Jacques et celle du Conseil. Des gens ici qui ne sont peut-être pas pétants, flashants, etc., mais des gens qui sont dépendants du Seigneur, des gens que tu vois que la parole de Dieu, c'est important pour eux. Tu as gardé ma parole. Des gens qui disent, tu n'as pas renié mon nom, tu vois vraiment que c'est Christ qui est Seigneur dans leur vie. Des gens qui attendent le retour de Jésus-Christ. Je viens bientôt. Et pas la première à dire, oh, ça fait 2000 ans, ça c'est écrit, ça c'est pas trop bientôt. Non, c'est pas vrai ça. Christ revient. Moi, quand je finis à chaque année, là, cette année en 2019, je dis, je revenais pas. Il n'est pas revenu. Je vous le dis, à chaque année, depuis quelques années, là, je me dis, ben voyons donc, il n'est pas revenu. Je suis surpris. Je suis déçu. 2020, on l'attend. Est-ce que parce que j'attends Jésus-Christ, Marc, parce que tu attends Jésus-Christ, tu ne fais pas de plan pour ta ferme? C'est pas ça. Tu peux vivre d'une façon très réalistique au présent, tout en planifiant pour le futur, mais ce n'est pas un absolu pour toi. c'est très possible que tes grains, puis tes semences, puis tes fertilisants vont rester dans la ferme. Puis c'est un autre qui va l'utiliser, Marc. Parce qu'un jour, là, on va être parti. Il n'y aura plus de fatigue. Ça, j'ai tellement hâte. Plus de fatigue. Plus de douleur. Plus de soucis. Plus d'inquiétude. Plus de combat dans votre tête, dans ma tête, dans vos cœurs. Plus de conflit, plus rien de ça. On va être avec le Seigneur pour l'éternité. Ça va être le repos. Ça va être le calme. Ça va être le bonheur parfait, sans aucun nuage, sans aucune inquiétude pour l'avenir. Alors, je vous laisse sur ces mots-là. Je viens bientôt. Et Dieu voulant, on continuera les versets 11, 12, 13, à un autre moment donné. Seigneur, ma prière, vraiment ma prière et celle de Jacques et du conseil, c'est que cette Église, tous les membres, on devienne une Église, Seigneur, de plus en plus attachée à ta parole, dépendant de toi, et renie pas son nom Jésus-Christ, et vraiment Seigneur, et aussi animée de la vérité suivante. Je viens bientôt. En attendant, on veut te servir. On veut chercher la sainteté. Et aussi, Seigneur, on veut espérer quand on passe par des moments difficiles et sachant que c'est pour un temps. Seigneur Jésus, bénis ces gens-là qui sont ici. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs défis, leurs doutes, leurs inquiétudes, leurs douleurs dans leur corps et dans leur âme. Je te supplie que ces quelques mots qu'on a lus ce matin puissent en exhorter ceux qui ont besoin d'être exhortés, ceux qui ont besoin d'être édifiés, qui ont été édifiés par ce qui a été lu, et ceux qui ont besoin d'avoir été consolés, qui aient pu être consolés par ce que nous avons lu. En Jésus-Christ. Amen.